quatre murs. Cette pilule n'est plus que ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse paraisse se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme le mercredi et en direct. Aujourd'hui, nous invitons le CRPA et André Bitton. Bonjour André.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le programme va être passablement chargé. Tout d'abord, je vais annoncer de nouveau notre conférence débat du samedi 27 avril prochain à la GK, 14h-18h, ainsi qu'une journée à Lyon le 8 juin prochain contre la contention à l'hôpital organisée par un collectif de professionnels de la psychiatrie et des patients. Je vais par ailleurs donner lecture d'observations pour le compte de l'association, de mes observations, sur le colloque à la faculté de droit de Nantes des 9 et 10 avril passés sur le contrôle de la psychiatrie, sur lequel Natacha Guillet avait précédemment fait un compte-rendu selon son point de vue. Je vais également redonner lecture des principaux points du texte que Natacha avait lu pour le compte du CRPA lors de ce colloque. Par ailleurs, je vais aborder, via une dépêche de Spimedia du 16 avril et un mot d'introduction que j'avais fait à ce sujet pour Mediapart, la saisine du Conseil constitutionnel le 15 avril passé contre la loi relative aux dérives sectaires, créant de nouveaux délits et un délit pénal de provocation à l'arrêt de traitement dont la validité a été reconnue scientifiquement, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Cette saisine du Conseil constitutionnel a été faite le 15 mai passé par le groupe Rassemblement national de l'Assemblée nationale et le groupe Les Républicains du Sénat. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une saisine du Conseil constitutionnel par un groupe parlementaire de gauche? Voilà. D'une part. Par ailleurs, quels sont les arguments en place, puisqu'on va vraisemblablement avoir une censure d'une partie de ce texte pour violation de liberté fondamentale. Donc on verra bien, la décision du Conseil constitutionnel devra intervenir vers la mi-mai. Il n'en reste pas moins que les arguments soulevés sont techniquement très intéressants, mais bon, on va voir ça plus en détail. Enfin, une dernière nouvelle provenant d'Ospimedia de la fin du mois de mars. Une société savante déconseille les tests diagnostiques en psychiatrie sur la bipolarité, ces tests étant effectués sur la base d'une prise de sang avec examen du code génétique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut déconseiller ça. Oui. Mais ce n'est qu'un simple déconseil. Ça devrait être mis sous une surveillance étroite. Donc alors, samedi prochain, 27 avril à AGK 14h, nous faisons notre prochaine conf débat sur les thèmes suivants. Tout d'abord, une père aidante professionnelle travaillant au GHU Paris Neurosciences va nous faire part de son expérience de la père aidance professionnalisée et des marges de manœuvre qu'elle a pu avoir en la matière. Bien. Donc avec le point de vue critique, le point de vue pour, un peu qu'on continue cette discussion. Et cette discussion sur la professionnalisation de personnes ayant acquis des compétences en cours de prise en charge et par elles-mêmes et qui se professionnalisent dans la pérédance. Par ailleurs, on a un communiqué du collectif de soignants de Toulouse sous le nom « Les aboyeurs de voix » qui lance donc un SOS et un signal d'alarme. Et on est convenu, avec d'autres, avec les coalitions professionnelles, également les organisateurs des assises citoyennes du soin psychique au mois de mai vont lire et donner écho à cette base. Nous sommes convenus désormais de poser les uns et les autres un signal d'alarme continu sur la situation de la psychiatrie en France, parce que c'est véritablement catastrophique. On atteint un point de non-retour, ça ne peut pas durer, et un signal d'alarme doit être continuellement positionnés. Donc on est convenu, et j'ai eu hier leurs mots d'accord et d'introduction. Enfin, un dernier point, nous aborderons de 16h30 à 17h à titre historique et témoignage, la période qui va dans l'histoire du groupe Information Asile et de la lutte juridico-politique pour les droits effectifs des personnes psychiatrisées et pour la judiciarisation des internements. Donc la période qui va de 1991 à 2000, c'est-à-dire la fin de la commission juridique bénévole du groupe Information Asile, et comment on en vient alors que des jurisprudences s'accumulent, notamment les saisines par Philippe Bernardet de la Commission européenne des droits de l'homme, comment on en vient finalement aux ordonnances Juppé de 96 et à l'autorisation très surveillée, très sous contrôle par le gouvernement de mouvements de patients en psychiatrie avec une affirmation très rhétorique et pas dans les faits, très rhétorique mais pas dans les pratiques d'un droit des patients en psychiatrie. Parce que c'est là que c'est à ce tournant que cela se fait. Et qu'en était-il exactement du groupe Information Asile qui a été ingérable au niveau organisationnel. Alors, donc, ceci étant dit, donc, la deuxième annonce, un collectif de professionnels de la psychiatrie lyonnais hein, et également de patients organise le 8 juin prochain à Lyon, le samedi 8 juin à la Friche Lamartine, dans la journée, autour de deux livres, une rencontre contre la contention à l'hôpital, autour d'Abolir la psychiatrie de Mathieu Bellassène, mais aussi du livre Charge de 13, Héloïse K, intitulé « Tu es barge ». Voilà, non, je ne sais pas, oui, non, ça devrait être le même, oui. Donc, qui est publié en poche, enfin, sauf erreur de ma part. Donc,
oui, c'est Charge, et en sous-titre, j'ouvre le huis clos psychiatrique.
Oui, c'est ça. Mais, oui. Donc, il y aura ça. Alors, toujours la même chose. L'inconvénient de ce genre de témoignages qui sont tout à fait impératifs et qu'il faut connaître, c'est que ce sont des témoignages sur des situations de désespoir, de détresse et de destruction non accompagnés d'un programme de lutte. C'est-à-dire que ce sont des dénonciations désespérées où on n'ouvre pas les issues. Or, ce que nous, on avait fait pour le livre témoignage collectif sous la direction de Nicole Maillard aux éditions Libertaires en 2008, c'était que les témoignages, nous ouvrions systématiquement un espoir et des perspectives de lutte, notamment les luttes personnelles, les luttes de rétablissement personnel et l'intégration des luttes collectives. Et donc, mais malheureusement, cela, c'est trop contestataire, les circuits publicatifs n'en veulent pas. Ce qui est publié et répercuté, qui consolide nos copines et nos copains, comme je dis, au tarif syndical, c'est précisément que, ah oui, la souffrance, le désespoir, la folie, nous, les professionnels, on y va. Là, il y a un problème, mais bon, ça, c'est la critique que je porte à cela. Et pour le reste, je ne dis pas. C'est essentiel que ces témoignages soient publiés, rendus publics, et que le vulgus pecum, les gens, quoi, en dehors, soient au courant de ce qui se passe.
Oui.
Voilà. Donc, alors, maintenant, je reprends quant à mes observations sur le colloque à la faculté de Nantes des 9 et 10 avril. Ça, par exemple... Pour moi, par exemple, personnellement, je ne suis pas le seul. Au GIE ancien, c'était pareil. Pour le CRPA, dans l'ensemble, c'est pareil. Il y a là, entre nous, pour moi, je suis représentant, finalement, entre nous et les organisations de malades en tant que telles, il y a ce dissensus. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Quand je suis rentré au GIE, il était ultra vivace, hein, puisque le groupe Information Asile de l'époque rejetait les problématiques des malades. Au bénéfice d'un internement abusif. Donc il a fallu faire un aménagement de cela, mais il n'en reste pas moins que ce dissensus est là, entre celles et ceux qui ouvrent une perspective, vont au contentieux, cherchent une lutte politique et des débouchés, donc vont dans le sens de réforme, et celles et ceux qui sont dans une dénonciation désespérante et désespérée, sans ouvrir d'issue.
Le GIA ne se préoccupait que des abus de la psychiatrie.
Alors, à l'époque, quand j'ai intégré le groupe Information Asile il y a un tiers de siècle, enfin en 1990, 34 ans maintenant, Le groupe Information Asile était censé, pour des raisons tactiques, pour des raisons dans de la procédure. Mais les procédures avaient cet aimable avantage, à partir du moment où il y avait de la jurisprudence, des possibilités de médiatisation, de révéler, de rendre public ce scandale de l'arbitraire dans les institutions. Mais c'était sous billet. Et à l'époque, les autorités, d'abord l'autorité judiciaire pour commencer, mais même les médias n'entendaient que cela. C'est seulement ces dernières années, avec une remise à la mode du témoignage de personnes psychiatrisées, à peu près, d'ailleurs, avec nous autres, hein, c'est nous qui avons mis à la mode cela, et avec, surtout, je pense, le contrôle général des privations de liberté. Là, il y a eu ces dernières années, depuis, une dizaine d'années, une remise à la mode des témoignages de personnes psychiatrisées. Mais à l'époque, ça passait pas du tout. Donc je reprends, mais j'insiste sur le fait que ce dissensus entre nous qui sommes dans des luttes juridico-politiques, médiatiques, etc., bien, et qui essayons d'ouvrir des perspectives, et les personnes insérées dans le tissu des mouvements des organisations d'usagers en psychiatrie, ce dissensus a toujours été en place. Mais bon, donc je reprends par rapport au colloque à la faculté de droit de Nantes sur le contrôle de la psychiatrie. Alors, mes observations. Alors, Natacha qui a fait une intervention là-dessus, hein, pertinente à la dernière émission, et je la complète. Hein, puisque, bon, alors c'est Natacha Guillet qui a représenté le CRPA en donnant lecture d'un texte de présentation que j'avais préparé sur le propos suivant. La judiciarisation de l'hospitalisation psychiatrique a-t-elle été neutralisée toutes ces dernières années ? Bien. Cette représentation du CRPA par Natacha Guillet était due au fait que, pour ma part, je boycotte les prestations organisées par et pour des professionnels de la psychiatrie ou intervenant sur ce terrain depuis 5 ans. Bien. Je ne les supporte plus. Point. Vu ce qui s'est passé la décennie précédente, qui a été extrêmement conflictuelle, alors que j'assumais de faire de la représentation d'intérêts à mes entiers risques et périls. Je m'ai été menacé d'être liquidé. Bon. Bien évidemment, Natacha Guillet représentait tout d'abord son propre drame et ses propres intérêts, ainsi que son propre point de vue. Comme elle l'a très bien dit dans l'émission L'Entonnoir du 17 avril, ici même, ainsi que dans ses publications sur la toile, si la teneur de ce colloque l'a vivement intéressée, ce qui s'y disait qui était technique et historique sur le droit de la psychiatrie était très nouveau pour elle. Elle y a appris que lorsqu'elle a été hospitalisée en étant mineure et en n'étant pas sous un régime d'hospitalisation d'office ni par le biais d'une ordonnance de placement provisoire d'un juge des enfants, elle était sous régime libre à la demande de ses parents et n'avait donc aucun droit. N'avait tout simplement aucun droit. C'est une particularité de l'hospitalisation psychiatrique des mineurs qui d'ailleurs pose problème et qui a prêté lieu notamment à une dénonciation, mais qui reste non mise à effet, du contrôle général des privations de liberté. Elle a par ailleurs pris note qu'en fin de colloque, le 10 avril à 17h, pour l'intervention des membres du groupe d'entraide mutuelle de Loire-Atlantique et pour la sienne propre, sur son texte propre, la salle s'était vidée des professionnels qui assistaient jusque-là à ce colloque. Bien. Or, quand on reprend les thèmes et les qualités des intervenants de ces deux journées, on comprend bien que les personnes concernées sont, comme à l'ordinaire, des personnes psychiatrisées, une cinquième roue du carrosse. Puisque, pour l'essentiel, sont tout d'abord des professeurs de droit, deux magistrats, un avocat, des sociologues, des psychiatres et un infirmier thésard, qui étaient en tribune et qui ont pris la parole, ce qui d'ailleurs ne saurait constituer un reproche. Mais allons plus loin. Quand on reprend les thèmes de ce colloque, considération historique sur le contrôle en psychiatrie, unification imparfaite des compétences juridictionnelles, attribution du juge judiciaire, le rôle du juge administratif et la psychiatrie, contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'homme, le rôle du CGLPL, du contrôle général des privations de liberté, et des commissions départementales des soins psychiatriques, décision administrative, décision médicale en psychiatrie, extension progressive des objets de contrôle, historiquement et techniquement. On ne peut que se poser la question sur ce que peuvent y comprendre des personnes psychiatrisées concernées, très touchées par le sort, infériorisées, médiquées, et qui plus est sous des traitements et sous un conditionnement d'ensemble qui affaiblissent la cognition, la volonté, la mémoire et l'attention. Ne ferait-on pas mieux de délivrer aux personnes concernées à travers les groupes d'entraide mutuelle, à travers les associations de patients et d'aidants, ainsi que dans les cursus de formation de la pérédance, des sessions de vulgarisation sur les principes du droit, sur ce qu'est le droit, c'est quoi le droit, hein, sur ce qu'est une régulation dans une société, même une société anarchiste a besoin d'une régulation. Bien, bien. Même une société anarchiste peut connaître une police. Oui. Bon. Sur comment on en est venu à ce que le système psychiatrique en France puisse prospérer sans contrôle, en autarcie, en somme d'assurer une formation de base aux personnes psychiatrisées, membres d'organisations institutionnellement facilitées, de sorte que ces personnes puissent avoir une idée de leur situation civique et citoyenne et qu'elles puissent se défendre. Jusque-là, en France, il n'est pas question de cela, sauf de façon très fragmentaire. Ainsi, j'ai dû noter que ce que je fais avec Denis, ce qu'on fait là, dans l'émission L'Entonnoir, depuis plusieurs années maintenant, reste strictement cantonné et entouré dans le milieu de la pérédance d'un silence résigné et indifférent. On préférerait sans doute n'être pas déstabilisé par des porteurs de discours et de descriptions d'états de fait qui dérogent au caramel mou de rigueur. On préférerait demeurer dans cette recherche qui est au principe de l'entraide institutionnelle entre pairs en psychiatrie, d'être aussi cool que possible. Ce continuum qui vous amène des dealers et des stupéfiants aux institutions de soins et aux prescripteurs de psychotropes légaux, à devoir réclamer, en étant cool, de bénéficier des quelques avantages de la chronicité et du handicap psychique, mais sans trop être discriminé, ségrégé, invalidé, infériorisé, déshumanisé. Quoi qu'il en soit, mon intervention pour le compte du CRPA a aimablement rappelé à toutes et à tous que ce que la psychiatrie institutionnelle fabrique depuis l'ouverture des institutions, un demi-siècle, c'est tout de même, aux dernières nouvelles, une caste d'inférieurs neurobiologiques qui se doivent, à peine de restauration de mesures de contrainte aux soins et d'enfermement, d'intérioriser cette condition infernale, inviable et déshumanisante, de malade mental confiné dans le circuit ad vitam, assorti de quelques avantages sociaux, il est vrai. Il serait nettement préférable, en accompagnement de tels colloques passionnants par ailleurs, d'organiser pour les personnes psychiatrisées des sessions de vulgarisation sur le droit appliqué au champ psychiatrique, mais donc aussi sur la constitution de la Ve République, puisqu'après tout c'est par là qu'on est passé, sur ce qu'est la citoyenneté au sens français du terme, et sur comment le système sanitaire se structure et s'organise avec cette discipline spéciale en large partie répressive qu'est la psychiatrie. Voilà. Donc ça, c'est mes observations. Là-dessus, je trouve que ce colloque a été passionnant. Mais les personnes psychiatrisées qui étaient en place, qu'est-ce qu'ils pouvaient y comprendre ? Est-ce que c'était de haute technicité, ce qui se disait ?
Oui.
Voilà. Quand tu vois des querelles sur lesquelles on a passé 15 à 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, sur la répartition de compétences, juridiction administrative, juridiction judiciaire, d'abord, ça suppose de savoir qu'il y a plusieurs sortes de juridictions en France. Ça suppose qu'il y a une juridiction administrative et une juridiction judiciaire, mais qui le sait ? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette dualité de compétences, tu vois ? Donc, je prends je reprends de façon synthétique le texte que j'avais déposé sur la judiciarisation de l'hospitalisation psychiatrique a-t-elle été neutralisée ? En tant qu'observateur et acteur associatif engagé dans un militantisme de longue date en faveur des droits des personnes psychiatrisées sous contrainte, j'ai constaté que depuis le 1er août 2011, mise à effet de la judiciarisation, continuellement depuis lors, depuis donc maintenant 13 ans bientôt, nous connaissons en parallèle de ce processus de judiciarisation des mesures d'hospitalisation sans consentement, un processus de neutralisation de cette mise à effet d'un contrôle judiciaire effectif de ces mesures. Selon un double mouvement, un schéma action-réaction qui est en cohérence avec le fait que l'entrée du droit dans le dispositif de l'hospitalisation sous contrainte s'est faite sous la contrainte de jurisprudence des hautes cours sans que les acteurs du terrain, institutionnels, gouvernementaux, sauf une stricte minorité, en veuillent. La stricte minorité, c'est simple, syndicat de la magistrature et quelques psychiatres italianistes. Dès la mise à effet du contrôle judiciaire obligatoire des hospitalisations sans consentement, des manœuvres d'obstruction se sont mises en place provenant des décideurs comme des agents, des établissements hospitaliers, ainsi que des juridictions, barreaux inclus. Film du jour de Raymond Depardon de novembre 2017 qui en donne une triste démonstration. La première chambre civile de la Cour de cassation a dû déployer une jurisprudence très contrastée pour normaliser et réguler des pratiques et des jurisprudences disparates et contradictoires d'une cour d'appel à l'autre. On a été en insécurité juridique sur ce terrain émergent du droit, selon qu'on était hospitalisé sous contrainte à Paris, sur le ressort de la Cour d'appel de Paris, Versailles, Cour d'appel de Versailles, Lyon, Montpellier, Réunion ou Martinique. Force est de constater qu'un tournant rétrograde a été pris par la Cour de cassation, singulièrement à partir d'une décision du 27 septembre 2017 publiée au bulletin, qui cassait une ordonnance de cour d'appel donnant main levée d'une mesure d'hospitalisation complète. Cette décision, citation, en statuant ainsi par des motifs relevant de la seule compétence médicale, le premier président de cour d'appel a substitué son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, et ce faisant a violé les textes suivisés. Donc, à partir d'une telle décision de principe, s'imposant à l'ensemble des juridictions en matière de contrôle des hospitalisations sans consentement, les juridictions n'étaient plus autorisées par la Cour de cassation, à critiquer le contenu d'avis et de certificats médicaux versés au dossier, quel que soit le contenu, ce contenu s'imposant à eux, lesquels peuvent très bien être en contradiction flagrante avec l'état de la personne auditionnée ainsi qu'avec d'autres pièces du dossier. Donc, le contrôle du bien fondé médical échappait à la magistrature. Bien. Donc, il restait quoi au magistrat ? Un contrôle formel. Bon, alors justement, on en vient là. À partir des décisions gouvernementales de confinement dues à la pandémie 2020, de Covid-19, la Cour de cassation a fait une application systématique de l'article L3216-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011, selon lequel, c'est un article spécifique procédure pure, selon lequel, dans le contentieux du contrôle d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en cours d'exécution, donc on exécute une mesure de soins sans consentement, on va à titre obligatoire devant le juge pour statuer sur cette mesure, ou bien on demande que le juge se saisisse, ou on saisit le juge soi-même, soit l'un soit l'autre. Et donc l'irrégularité constatée dans le cadre de la mesure par le juge n'entraîne la levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte au droit de la personne objet de soins sous contrainte. Cela veut dire, c'est un peu compliqué à comprendre, cela veut dire que la nullité, même substantielle, n'est pas en soi un grief suffisant pour que la main levée soit accordée. Bien. C'est-à-dire que ces possibilités procédurales pures de droit formel qui entachent une procédure et qui provoquent la levée des poursuites, incarcération, etc., Nicolas Sarkozy peut en profiter, Balkany peut en profiter, les grands truands, les grands délinquants peuvent en profiter, mais les malheureux malades mentaux n'ont pas à en profiter. Bien. Donc on est encore dans un droit dérogatoire à l'endroit d'inférieurs qui, eux, n'ont pas à bénéficier de ces clauses qui garantissent la liberté par rapport au pouvoir du prince de vous foutre au gnouf. Vous avez des délégataires du pouvoir central qui peuvent vous mettre au gnouf n'importe comment, qui peuvent rédiger leurs décisions de mise au gnouf n'importe comment. Pour les pauvres malades mentaux, le droit formel et les garanties du droit formel ne s'exercent pas. Bon. Donc, en conséquence, ainsi, alors, bon, je cite un commentaire sur Dalloz Actualité d'un magistrat, M. Cédric Hélène, d'une décision du 15 septembre 2021 au bulletin de la Cour, donc une décision de principe. Lorsque le certificat médical mensuel n'est pas produit en temps et en heure, la Cour de cassation rappelle qu'il reste nécessaire d'articuler un grief distinct, pour obtenir la main levée de la mesure. En d'autres termes, il n'existe aucune atteinte automatique des droits par ce seul défaut. Bon. Donc, en conséquence de ce double verrouillage, a été sévèrement compromis l'accès des personnes hospitalisées sous contrainte en milieu psychiatrique à un juge indépendant et impartial, ainsi qu'à une défense opérationnelle au sens des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir que la détention d'un aliéné doit être légale et régulière. Régulière, ça veut dire que l'addition doit être correctement rédigée dans des termes qui respectent le droit. Et donc, de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc, d'une part, le magistrat du contrôle judiciaire d'une mesure d'hospitalisation complète n'a pas cette latitude de critiquer les avis et certificats médicaux au dossier. D'autre part, des irrégularités de forme dans la rédaction des actes, mais aussi dans les délais de procédure, même si ces irrégularités atteignent une certaine gravité, n'entraînent pas à elles seules que la main levée de la mesure de privation de liberté soit ordonnée. Or, seule une telle décision libératrice peut mettre fin à la détention arbitraire d'un aliéné au sens de l'article 5.1e de la Convention des droits de l'homme, dès lors que cette mesure a été décidée et formalisée en dehors des clous des textes qui encadrent ce pouvoir qu'ont des autorités de priver des personnes de liberté au motif de leur pathologie mentale. Toujours cette maxime de ce juriste allemand constitutionnaliste du 19e siècle, von Gering, ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Bien, c'est le principe de l'habeas corpus. En ce qui concerne le contrôle judiciaire des décisions de maintien en isolement contention, force est de constater que l'instauration de ce contrôle judiciaire à titre obligatoire en 2 janvier 2022, n'a entraîné qu'une baisse limitée, une baisse réelle mais limitée, de ces mesures, d'après la dernière note de l'IRDES portant sur l'exercice 2022, en comparaison de la précédente note qui portait sur l'exercice 2021. Or, la politique gouvernementale affichée, c'est d'organiser institutionnellement au niveau du ministère et des agences régionales de santé une baisse de ces mesures depuis des années, alors qu'elles ont été en hausse, et puis qu'à la faveur d'un contrôle systématique instauré contre la volonté du gouvernement, contre les syndicats, il faut savoir que le contrôle systématique des maintiens en isolement contention a été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qu'à partir de là, beaucoup de personnels ont démissionné de la psychiatrie publique.
D'accord.
Il y a d'ailleurs des alertes continues dans la revue du SPH, Syndicat des psychiatres des hôpitaux, principal syndicat de psychiatres avec l'IDEP, qui ont alerté continuellement ces dernières années là-dessus. Donc, cet état de fait, comme nous le soutenons en tête de ce texte, est donc en cohérence avec le fait que la réforme de départ qui déclenche le processus de judiciarisation des hospitalisations sans consentement s'est faite non sur un travail concerté du gouvernement et du Parlement, mais sous la contrainte d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel et des hautes cours, d'ailleurs actionnée par des activistes et quelques avocats engagés. Alors, reprenons cela. Historiquement et structurellement, la France, par son centralisme, sa verticalité structurelle, ce qu'on appelle le jacobinisme français, rejette le déploiement des contre-pouvoirs, inclut le pouvoir judiciaire. En France, de haute tradition, le pouvoir judiciaire est systématiquement affaibli par l'exécutif. Et cela, ça date des Louis, ça date de la structuration de l'État français. Toujours cette notion, en France, l'État précède la nation. La nation a été constituée par une unification de forces autour d'une couronne. Bien. Alors il y a eu des périodes, et une période précise, où les magistrats qui étaient des féodaux, les charges étaient héréditaires, une longue grève des juridictions sous Louis XV et Louis XVI qui a abouti à la convocation des États généraux en 1789. Mais les constituants ne se sont pas gênés, ils ont introduit des juridictions d'exception, et avec la fin de la période révolutionnaire par le coup d'État de Bonaparte, le 18 Brumaire en 8, alors là c'est terminé. D'ailleurs c'est là qu'il restaure le Conseil du Roi et qu'il instaure le Conseil d'État. Bon. Donc historiquement et structurellement, la France, par son centralisme et sa verticalité, rejette les contre-pouvoirs, inclut le pouvoir judiciaire. À mon sens, et je parle ici en tant que Français issu d'une immigration de l'ex-empire colonial débarqué à Paris en 1957 en très bas âge alors que la bataille d'Alger faisait rage, et naturalisé français en cours d'enfance, les refus catégoriques et les réticences en la matière sont structurels et l'on peut d'ailleurs renvoyer à ce titre. Par exemple, entre autres, au refus, je pourrais prendre un autre exemple, comme le traitement habituel des personnes placées en général. Je ne parle pas des personnes incarcérées, des personnes placées, les placements administratifs en général. Je ne parle pas de l'incarcération, c'est autre chose. Donc, par exemple, au refus du gouvernement français de la décolonisation au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Voir, par exemple, la conférence de Brazzaville de 1944, où le général de Gaulle, en présence d'administrateurs coloniaux, seulement administrateurs coloniaux, pas en présence de représentants de colonisés, affirme sa doctrine en la matière pour une plus large autonomie avoir à partir de la libération de la métropole dans le cadre de l'Union française, mais pas question de décoloniser. Ce rejet de principe de la décolonisation par les gouvernements successifs, d'ailleurs, a induit les deux conflits d'Indochine 46-54, d'Algérie 54-62, où la France s'est embourbée. Alors, étaient en place à l'époque les groupes de pression coloniale et militaire en ce qui concerne l'opposition à la décolonisation. Pour le terrain qui nous concerne, qui est interne à la métropole et aux autres territoires, et qui concerne de plus en plus de gens, qui concerne maintenant des millions de personnes, c'est pas accidentel, la psychiatrie c'est pas accidentel, c'est des millions de personnes. Le poids des corporatismes, l'inertie carriériste, des agents qui prennent des crédits quand leur carrière commence à être assurée, et qui donc viennent vous dire « j'en ai pris pour 30 ans, je peux rien faire, je peux pas bouger ». Donc, l'inertie carriériste, la volonté du gouvernement, de l'administration et des détenteurs du pouvoir de représentation d'intérêts, des lobbies, et la volonté de l'administration comme du gouvernement de tenir sans contrôle extérieur cet outil médicalisé de répression et de domination de proximité qu'est l'institution psychiatrique depuis la loi de 38 et qui concerne de plus en plus de personnes. Bien. En ce qui concerne la psychiatrie, donc l'État, l'administration centrale, les agences déléguées, les ARS, anciennement les ARH, ainsi que les institutions psychiatriques ont amplement prouvé, les acteurs également, ont amplement prouvé depuis les années 96-2000 que si des mouvements d'usagers en santé mentale, pas en psychiatrie, hein, en santé mentale, sont autorisés, ils ne le sont que sous contrôle étroit des bailleurs de fonds et des institutions, avec aussi peu de marge de manœuvre que possible. Si une opposition au système psychiatrique se met en place au niveau des malades, le système psychiatrique ne tolère guère qu'une opposition de Sa Majesté, rien de plus. Sachant que notre système psychiatrique est particulièrement paternaliste et hygiéniste. Et que donc les patients sont systématiquement infantilisés. Le contraste est donc criant par rapport à ce qui se passe au Québec où les mouvements de défense des droits des personnes psychiatrisées l'agissent dans l'espèce, l'association des groupements de défense des intérêts des personnes psychiatrisées, peuvent déployer des initiatives et des interfaces que nous ne connaissons en France que de façon embryonnaire. Je ne parle pas du contrôle judiciaire québécois, je parle de l'organisation des personnes elles-mêmes, qui est extrêmement développée au Québec. Il est ainsi possible d'affirmer que le contrôle judiciaire des mesures psychiatriques de privation de liberté est en train actuellement de perdre d'année en année son objectif premier, qui est de garantir les personnes hospitalisées sous contrainte en milieu psychiatrique contre l'arbitraire des institutions qui les détiennent. Quelles sont les marges de manœuvre des magistrats et des avocats ? Quelles sont les marges de manœuvre ? Les magistrats ne peuvent pas critiquer le contenu des avis et certificats médicaux, et les violations de droits formels n'ont pas de conséquences. Bon. Alors un parallèle, à mon sens, est à établir et serait à approfondir. J'ai commencé de le faire, mais ce n'est pas à moi de faire des travaux universitaires. Voilà. Dans des travaux universitaires, entre ce statut social de fait et de droit des personnes malades mentales, des personnes psychiatrisées, suivies, et le statut de l'indigénat, tel qu'il a été codifié dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans l'Empire colonial français, entre l'Indochine et l'Algérie. Et après, il a été étendu. Ce droit de l'indigénat était d'abord un droit administratif spécifique. Or, le droit de l'internement psychiatrique, c'est un droit administratif, c'est un droit spécial. Organiser le statut de l'indigénat organisait un statut dérogatoire, bien, avec un corpus de mesures spécifiques. Les gouverneurs coloniaux, les administrateurs et leurs agents avaient les pleins pouvoirs sur la population concernée. Avec également le recrutement indigène, hein, bien sûr. La sortie toute récente du droit de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement, du droit administratif, c'est à partir du 1er janvier 2013, bien. Et son inclusion dans le droit judiciaire, bien, parce que contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement, ne permet pas encore de constater une différence de régime qui rompt avec la conception 19e de l'aliénation mentale. Au contraire, hein, il y a une euphémisation dans le lexique et un durcissement en interne. Nous ne pouvons donc que constater que la France, en ce qui concerne le droit des personnes psychiatrisées, entend conserver l'essence même de son régime ancien de l'internement loi 1838, aussi peu de contrôle extérieur que possible, et puisque les détenteurs du pouvoir ont dû mettre en place, sous contrainte, un contrôle obligatoire de l'hospitalisation sous contrainte par la juridiction judiciaire, réduire ce contrôle à peau de chagrin. Ça a été le but des détenteurs du pouvoir institutionnel là-dedans, réduction à quia, hein, bon, du contrôle judiciaire, et d'abord combattre auprès des avocats comme auprès des magistrats l'effet libérateur des nullités de droit. D'abord, donc neutraliser l'impact du juridisme. Les hommes et les femmes de bonne volonté qui opèrent sur ce terrain, quelles que soient leurs obédiences, doivent aller à contre-courant de cette pente mortifère. Bon, ça, c'était ma conclusion. On fait une pause musicale ?
Oui.
Merci.
Avec Eddie Mitchell, Lashbot Blues.
Donc, on reprend après cet intermède qui correspond très bien à la situation. Essayez de dire à la prochaine fois, et votre psy, et l'équipe qui va avec, oui, je vous adore. Et puis, vous leur offrez ce superbe morceau de musique populaire française. Alors, nous avons appris le 15 avril sur ce fameux projet de loi de lutte contre les dérives sectaires, projet de loi qui avait été déposé au mois de novembre, qui avait prêté lieu en novembre 2023, qui avait prêté lieu à un avis du Conseil d'État très négatif, parce que le gouvernement, prenant le prétexte de la lutte contre les dérives sectaires en santé s'efforce de surajouter au code pénal et de créer un nouveau délit passible d'un an de prison ferme avec 115 000 euros d'amende. Le délit de provocation à l'abandon de traitement dont l'efficacité a été validée scientifiquement. Cela veut dire que le gouvernement, d'ailleurs cette loi a été définitivement adoptée, mais le Conseil constitutionnel a été saisi, on va voir comment, le 15 avril passé. Ça veut dire que si cette loi passe sans être censurée, notamment sur l'impact sur le libre choix du thérapeute et de la thérapie, parce que ça revient à ça, alors une contrainte aux soins allopathiques, une contrainte aux soins sur les traitements, sur les modalités recommandées HAS, sur les modalités les plus favorables aux trusts pharmaceutiques, cette contrainte aux soins va pouvoir être imposée et les prescripteurs, les médecins qui iront contre pourront être traduits devant le Conseil de l'Ordre des médecins en vue d'une radiation et de sanctions disciplinaires et pénales. Alors il est prévu que les lanceurs d'alerte soient exemptés de poursuites, mais tout cela, ça ne veut pas dire grand-chose, d'autant plus que traitement validé scientifiquement, qu'est-ce que cela veut dire ? La médecine, ce n'est pas une science. La médecine, ce n'est pas une science, et l'évolution des connaissances en la matière fait que rien n'est certain pour 10 ans plus tard, et quand en matière psychiatrique, où les atteintes sont certes biologiques, mais sont surtout psychosociales et environnementales, alors là, c'est vraiment la catastrophe. Bien. Alors donc, le greffe du Conseil constitutionnel a reçu et a donné acte le 15 avril de 2 saisines en inconstitutionnalité de cette loi. Une saisine faite par le groupe Rassemblement National, dirigé par Marine Le Pen de l'Assemblée nationale, et une saisine faite dans la foulée par le groupe Les Républicains du Sénat, qui avait complètement remanié ce texte, dirigé par Bruno Retailleau. Alors, tout d'abord, une question. Pourquoi la gauche, les groupes de gauche, sauf le groupe socialiste, je crois, qui avait voté contre, qui s'était opposé à ce texte, n'ont pas déposé de recours au Conseil constitutionnel ? Je pense que c'est parce que la saisine du Conseil constitutionnel a été préemptée par l'extrême droite. Préemptée par l'extrême droite, suivie par le groupe républicain du Sénat. Le Sénat, c'est pas l'Assemblée nationale. Et que à ce compte-là, les groupes, notamment France Insoumise et GDR de l'Assemblée nationale, n'ont pas voulu surajouter et se mêler à une saisine extrême droite. Voilà. Donc je pense que c'est pour cela, puisque les parlementaires France Insoumise et communistes, Assemblée nationale, avaient voté contre ce texte, et que ce texte avait été surtout combattu au Sénat par la droite qui est majoritaire. Alors, pourquoi l'extrême droite et la droite ont saisi le Conseil constitutionnel là-dessus ? Alors, sur ce texte, tout d'abord, il y a les antivax. Il y a le problème des antivax. Il y a la question des antivax, et il y a la question que, comme il y a une attaque en règle sur ce que eux critiquent comme étant l'idéologie dominante. L'extrême droite, une certaine droite dure, critique que dans les médias, il y a de longue date une idéologie dominante gauchisto, gauche, machin, truc, etc., et qu'une lutte doit être menée contre l'idéologie 68. Et que c'est l'idéologie 68 qui s'impose, et eux n'ont qu'à se la fermer. C'est le camp, enfin, ils sont désignés comme étant le camp du mal. Donc, ils se battent sur la question de la liberté d'expression. Bon. Et c'est là que l'on rentre, enfin bon, pour nous, peu importe, au niveau des droits des patients, il importe peu. Ce qui importe, c'est qu'on va attendre cette décision du Conseil constitutionnel, et si cette décision censure l'ancien article 4 de cette loi devenu un article 12 dans la loi définitivement adoptée, alors le Conseil constitutionnel censurera le fait que cette loi porte atteinte au principe du libre choix du thérapeute et de la thérapie, principe fondamental de la législation sanitaire, affirmé délibérément dans le Code de la santé publique avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, la loi Kouchner. Bien. Donc après, il importe peu au niveau des droits des malades que la saisine du Conseil constitutionnel ait été faite par l'extrême droite ou la droite. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à cette censure. Bon. Alors maintenant, il ne reste pas moins, puisqu'il est connu, et nous, dans les milieux des justiciables, on le sait ô combien, que dans l'extrême droite, qui plus est à droite, ils ont d'excellents juristes. Bon, c'est simple, ils ont vraiment d'excellents juristes. Et d'ailleurs, je dois dire que moi, c'est ce que j'ai vu, que j'ai dû constater l'excellente tenue du mémoire constitutionnel du Rassemblement national. Alors, quand on voit maintenant le principe de leur argument juridique, méconnaissance de la liberté d'expression et de communication. Puisque la provocation à l'arrêt des traitements scientifiquement validés, elle se fait comment ? Par des détenteurs du pouvoir d'agir sur l'opinion publique. Donc, au niveau des médias, également au niveau des influenceurs, et également à ce qu'on appelle celles et ceux qui ont le pouvoir un peu de former l'opinion autour d'eux. Donc, ils saisissent essentiellement sur la méconnaissance de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Puisque cette loi... sur l'article 4 devenu article 12 transformant en délit la provocation à l'abandon de traitement scientifiquement validé, elle s'attaque à celles et ceux qui peuvent toucher l'opinion. Oui. Bon. Et par ailleurs, un autre argument qui est développé très longuement, le défaut de nécessité de l'atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression et de communication par l'article 4 devenu 12, bien, en ce que cet article s'efforce de créer une peine sur des délits qui sont finalement déjà prévus. Et que on est dans le cadre d'une inflation législative inutile. C'est bien qu'ils le disent parce que sur d'autres terrains, alors ça c'est l'argument inverse. Eux surrajoutent loi après loi des choses qui sont déjà dans les textes, notamment sur les immigrés. Ouais. Et sur la sécurité intérieure. Bon. Bon. Par ailleurs, sur l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, de toutes les façons, il y a un problème, c'est que l'état de la science en matière médicale évolue de 5 ans en 5 ans. Hein. Donc, ce qui est l'état de la science sur un savoir médical à un moment donné ne l'est plus à un moment donné. Et par ailleurs, ils insistent sur le fait, et ça le groupe Les Républicains le fait, sur le fait que cette loi qui prétend garantir sur des amendements les lanceurs d'alerte en matière médicale, c'est pas se rendre compte que lorsque des personnes lancent des alertes, notamment Frachon, tu vois, lorsque une médecin pareil lance une alerte, à ce moment-là, l'état des connaissances scientifiques est contre l'alerte qu'elle lance. Tout simplement. Et que la bataille qui va être livrée pendant des années pour faire reconnaître que l'état des connaissances en la matière doit évoluer, qu'en réalité c'était fraudé par la propagande des firmes pharmaceutiques, ça va prendre des années, des années. Que donc la prétendue garantie offerte par cette clause de cette loi ne fonctionne pas. Et alors là-dessus, par effet complémentaire, parce qu'ils se sont concertés, c'est entre groupes et entre juristes de ce groupe, c'est le mémoire des Républicains Sénat qui aborde le principe de libre choix, du thérapeute et de la thérapie, en disant qu'il s'agit d'une violation de l'article 11, hein, je crois, de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme. Sur la liberté d'expression, il rate un argument, j'ai trouvé ça curieux qu'il le rate, sur la violation de la vie privée, article 8. Mais finalement, les deux mémoires se complètent, et c'est le mémoire des Républicains qui argumente le fait que, avec une loi pareille, le libre choix du thérapeute et de la thérapie, principe fondamental de la législation sanitaire française, va être remise en cause, ce qui est insupportable. Alors, les conséquences de cela, je vais lire la dépêche de Spimedia, les conséquences de cela, avec une telle législation, c'est que c'est l'hygiénisme français et l'imposition d'une contrainte aux soins, toutes disciplines confondues, qui avance à grands pas. Voilà, et ça, c'est grave. Ça, franchement, c'est grave. Alors, je lis à ce sujet la dépêche d'Aspimédia du 16, le lendemain étaient très bien faites, je leur donnais lecture. Deux saisines du Conseil constitutionnel par des députés Rassemblement National et Les Républicains visent le projet de loi contre les dérives sectaires, en particulier sur le volet santé. Ils invoquent essentiellement des menaces sur la liberté d'expression. Le projet de loi sur le renforcement de la lutte contre les dérives sectaires adopté au Parlement le 9 avril est visé par plusieurs saisines du Conseil constitutionnel. Ces requêtes enregistrées le 15 avril sur la conformité du texte à la Constitution émanent pour l'une de plus de 60 députés Rassemblement National et l'autre de plus de 60 sénateurs Les Républicains. Ils ciblent notamment sans surprise au regard de la teneur des débats au Parlement les dispositions les plus controversées qui ont trait aux dérives sectaires en santé. Il s'agit des dispositions réprimant les agissements ayant pour effet de créer un état d'assujettissement psychologique ou physique, article 3 dans le texte définitivement adopté, et celle réprimant la provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins, ex-article 4 devenu in fine article 12. Liberté du choix des soins menacée. Le premier délit autonome que le gouvernement a souhaité créer via l'article 3 viendrait s'ajouter à des dispositions en vigueur réprimant l'abus de faiblesse. Relève les sénateurs LR qui estiment que cet article, en outrepassant largement les cas pour lesquels cet état de sujétion psychologique ou physique résulterait d'organisation de personnes individuelles liées aux dérives sectaires, permettra de sanctionner tout type d'emprise de manière générique, quelle qu'en soit l'origine, religieuse, idéologique, conjugale, familiale, etc. Dès lors, affirment les sénateurs LR, l'article ne permet pas d'assurer la conciliation entre les libertés individuelles, comme la liberté de conscience et la liberté d'opinion, et l'objectif de sauvegarde de la dignité humaine et de l'ordre public. Concernant l'article 12, les élus considèrent que malgré les efforts consentis par le gouvernement pour exclure les lanceurs d'alerte du dispositif de sanction, la rédaction proposée au final n'atteint pas un équilibre satisfaisant dans la conciliation entre l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de choisir et de refuser des soins d'une part et l'objectif de protection de la santé publique d'autre part. Les menaces sur la liberté d'expression sont aussi invoquées par les députés Rassemblement National, dont la saisine porte uniquement sur cet article et sous cet angle. Liberté d'expression, c'est ce que j'avais dit précédemment. Les saisines développent de concert un argumentaire tendant à prouver que ni la nécessité ni la proportionnalité de l'incrimination de la provocation à l'abandon ou à l'abstention des soins ne sont établies. Tous deux puissent dans l'avis rendu par le Conseil d'État le 9 novembre 2023, qui avait été tout à fait négatif, consulté en amont de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Cet avis du Conseil d'État du 9 novembre est publié sur le site du CRPA. Il était très riche et très, très indicatif. Le Conseil d'État disait clairement ce texte n'est pas légal. Le texte n'est pas légal. Le Conseil d'État estime, en examinant les nouveaux délits proposés par l'exécutif, que si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, une série de dispositions juridiques couvrent d'ores et déjà amplement les faits visés. Il cite, entre autres, le Conseil d'État, la répression pénale de l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, la non-assistance à personne en danger, le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ou encore l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours. Donc, en tout cas, il est fort dommage dans cette affaire, mais c'est ainsi, il y a des raisons de répartition des rôles au Parlement, que la gauche ne soit pas présente dans cette dénonciation. C'est fort dommage, mais c'est ainsi. Alors, par ailleurs, une dernière info. On apprenait fin mars qu'une société Alcédiac et des laboratoires de biologie médicale Saint-Lab ont lancé en France un test sanguin baptisé MyEdit B, censé être le premier à permettre de différencier les troubles bipolaires et la dépression. Votre état de dépression et de bipolarité va être décelé sur une prise de sang. Reposant sur un séquençage nouvelle génération de l'ARN dans le sang, couplé à un algorithme basé sur l'intelligence artificielle.
Ah oui, d'accord, oui.
Vous êtes diagnostiqué par IA. Ce test présenterait des performances supérieures à 80%, explique le dossier de presse conjoint d'Alcédiag et Saint-Lab. Il permettrait ainsi de réduire drastiquement le délai de diagnostic des troubles bipolaires de 8 ans en moyenne à moins d'un mois. Le test sera disponible sur prescription d'un psychiatre uniquement pour les patients majeurs traités pour un épisode dépressif caractérisé. Il n'est pas remboursé et coûtera 899 euros. T'as pas 100 balles pour la bonne cause. La prise de sang devra être réalisée dans un des laboratoires du réseau Saint-Lab. En vue d'obtenir le remboursement du test, Alcédiag annonce avoir initié début 2024 une étude d'utilité clinique multicentrique avec des établissements de soins psychiatriques français ayant pour objectif le recrutement de 450 patients. Il est prévu que l'étude se déroule jusqu'à fin 2026. Ils ont l'honnêteté de dire qu'ils recrutent des malades. Ils ont cette honnêteté. Hein. Alors... L'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie déconseille la prescription de tests diagnostiques en psychiatrie en l'état actuel des connaissances sur ce test censé diagnostiquer la bipolarité. Une mise au point a donc été faite le 28 mars par cette Association française de psychiatrie biologique, alors qu'est annoncée la veille de la journée mondiale des troubles bipolaires le lancement de ce test. Après avoir détaillé les conditions de validité de ce test, la société savante indique dans un communiqué qu'à sa connaissance, aucun test ne remplit à ce jour les conditions qui permettraient un usage pour les patients. Elle ne conseille pas la prescription de tests diagnostiques en psychiatrie en l'état actuel des connaissances, mais encourage en revanche la recherche sur cette thématique. Alors ça ouvre la question de qu'est-ce que ça veut dire un tel test. C'est ce que disait un biologiste avec lequel on a travaillé longuement et dont c'était le métier, sur les fragilités génétiques. On a un code génétique, bon, on a telle prédisposition. Est-ce que cela veut dire que sur une prédisposition génétique, on va décompenser la maladie? D'une part. D'autre part, le déterminisme. La question du déterminisme. C'est-à-dire que si l'on fait ce test et qu'il est dépisté, voilà, une facilité, une propension à la bipolarité, on ouvre un déterminisme. Et dans la logique actuelle du traitement à vie, hein, ce déterminisme va jouer tout le temps. On n'aura pas cette marge de manœuvre et cette liberté individuelle qui est que quand bien même j'ai une facilité pour telle maladie, pour tel handicap, je peux me battre contre, je peux changer le cours de ma vie. Bien. Tandis que là, non, c'est prédéterminé.
On est ontologiquement bipolaire,
voilà,
c'est une identité.
Voilà, c'est une identité naturelle. Ouais. Et c'est là où on voit qu'on est bien dans la constitution de caste biologique.
Oui.
Eh ben, c'est juste pas supportable,
oui.
C'est juste à dénoncer et c'est juste pas normal qu'on aille dans ce sens-là. Une plage musicale. Allez.
Alors, cette fois, ce sera à 10h27. Bella Ciao.
Oui.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Alors, j'ai vu l'autre jour une citation qui m'a paru assez remarquable du philosophe radical du début du XXe siècle, Alain, qui a été un pur produit de la méritocratie Troisième République, qui était un normalien, qui était un matérialiste. Hein. Les conditions de la pensée véritable, c'est-à-dire premièrement une émotion, une indignation, une révolte, c'est mon état ordinaire. Il a fallu s'élever de cet état violent à des pensées, autrement tout était perdu. Le citoyen ne peut se sauver que par la pensée. La révolte, c'est mon état ordinaire. J'ai dû m'élever au-dessus de cet état violent à des pensées, autrement tout était perdu. Le citoyen ne peut se sauver que par la pensée.
Merci André. Ainsi termine l'entonnoir. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, à la semaine prochaine. Et nous allons maintenant écouter Un rayon de soleil, l'émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Soleil. Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Mais les autres, ils font.